Cube Radio.
Là, Fred, c'est pas vrai que tu vas nous renifler puis nous morver ça en pleine face, là?
Germain, on contrôle pas notre maladie. Oh. Je suis malade, mais on a un horaire strict chez Podcast de Char. On avait un enregistrement de prévu et je ne suis pas de ces personnes qui cancellent pour une simple petite grippe ou un rhume. Je sais jamais qu'est-ce que j'ai.
T'es
là,
pas une mauviette!
Oh que no! Germain, je me sens pas très beau ces temps-ci. Je me sens même un peu laid avec tous ces microbes qui m'envahissent.
Je peux pas dire que je suis pas d'accord.
Ouch. Je cherchais un peu de réconfort. C'est un sujet amené un peu triste, Germain, parce que tout ce que je voulais faire, c'est une espèce de parallèle un peu plate avec le fait qu'on va parler aujourd'hui des voitures les plus laides qui ont jamais existé.
Absolument. Puis il n'y a rien de scientifique là-dedans. On s'assume, on aime ça. On va juste parler des autos qu'on trouve pas belles.
On part.
Y a pas juste les vieux chars qui étouffent à l'occasion, toi aussi aujourd'hui, Frédéric.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ben, je sais pas, tu peux me parler de Charlet.
Ah, je commence?
Vas-y.
Okidoki! Avec quoi je commence? Tiens, il y en a beaucoup de Charlet, hein?
Ah, c'est pas ça qui manque.
On pourrait faire un podcast de 24 heures, mais je pense que vous décrocheriez un moment donné.
Ben, en tout cas, moi, je décrocherais.
On va essayer de s'en limiter à 20 minutes à peu près. On va commencer, je pense qu'on veut un peu attaquer toutes les époques aujourd'hui, Germain.
Tu vas tirer à bout portant sur toutes les époques.
Dans toutes les directions. Le passé, le présent, peut-être même le futur, qui sait?
Tu vas fusiller toutes les époques.
J'ai le goût de commencer par fusiller un flop des années 50 qui s'appelle la Edsel.
Oh!
Ça te dit quelque chose?
Bien sûr!
Tabarouette, réalisateur n'a pas...
Déjà.
Regarde comment il écrit ça.
Il cherche une haie de sel.
Non, réalisateur, ça s'écrit plutôt E-D-S-E-L. Edsel, qui est le nom d'un des fils de Henry Ford.
Absolument.
C'est bien ça. Qui est aussi...
Pas le plus brillant de la gang, hein?
Ouch! Tu le connaissais même pas personnellement.
Ben non.
Mais c'est aussi le nom qu'on a donné à une marque chez Ford. En fait, c'était pas juste un modèle, mais bien une marque à part entière qu'on a créée, qu'on a lancée en 1957 pour tirer la ploye en bon français, 3 ans plus tard seulement. C'est reconnu, pas juste dans le monde de l'automobile, mais dans le monde des affaires en général, oui, toutes
comme
catégories
comme un flop commercial, comme un flop de design.
Exactement.
Comme un flop sur toute la ligne.
Un gros, gros, gros flop qui aura coûté, je pense pas des milliards à l'époque, là, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à Ford. Si on le mettait en dollars d'aujourd'hui, si on convertissait, parce que c'était quand même les années 50, là, ce serait probablement gigantesque.
Quand on parle du design laid,
ouais,
c'est pas juste toi et moi qui trouvons ça laid, c'est connu publiquement. La grille qui ressemble aux parties génitales de la femme.
Mais
c'est plus que audacieux d'aller jouer dans ce terrain-là. Là.
Vous pouvez googler comme notre réalisateur si vous voulez, mais on va essayer de vous l'imager. On a une espèce de calandre vertical, un petit peu à l'Alfa Romeo, mais vraiment étiré.
Oui, un peu trop.
On peut-tu dire ça? Avec beaucoup, beaucoup de chrome. C'est pas... Ça aurait pu être beau, mais c'est juste... Je sais pas. Il y a quelque chose, surtout dans la devanture de ces autos-là, qui a jamais accroché. Puis les historiens automobiles, parce qu'ils sont nombreux, pointent beaucoup du doigt le design de cette auto-là pour expliquer... ses insuccès. Je pense que c'était pas donné non plus.
En plus, c'était pas une bonne voiture.
À quel sens?
Ben, du point de vue mécanique, là, si on pense à la transmission, tu sais, on n'avait pas de levier de vitesse traditionnel. On avait des boutons, comme on en retrouvait chez Dodge, chez Plymouth à la même époque. Mais là, ils étaient dans le milieu du volant.
Sur le volant?
Dans le milieu.
Oh, ça, j'étais pas au courant. Ah oui.
Ouais,
comme où le klaxon est
habituellement. Là où on est porté à aller pour klaxonner, ben, c'était là qu'étaient situés les boutons de la transmission.
Fait que quelqu'un imagine... toi, tu pèses sur park.
Ouais, ou imagine te stationner en parallèle et là, le volant est tourné, il a fait un tour et demi. Puis là, tu cherches ton drive, tu cherches ton reculon. C'est vraiment pas... Puis ça avait tendance à briser en plus. Donc,
c'était une Ford.
Voilà.
Oh. Fix or repair daily.
Ouais.
C'est l'acronyme de Ford. Je sais pas
ferraille,
si y en a
ordure, rebut et déchets.
Ah, c'est chien. Les modèles Ford ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais ouais, ils ont traîné très, très longtemps cette réputation-là. Pour te dire à quel point la calandre était étirée comme à la verticale,
ouais,
on avait écrit Edsel à la verticale.
Parce
dans
que
la
sinon,
calandre.
Ça rentrera pas.
Non, c'est ça, mais E-D-S-E-L, c'était vraiment long, long, long. L'analogie avec la partie génitale féminine me fait beaucoup sourire. J'avais jamais pensé à ça parce que je n'ai pas un esprit croche comme le tien, Germain.
Ah, ben voilà, j'ai un peu d'hormones en moi encore. je ne suis pas mort en dedans.
Attends la trentaine, tu vas voir. Un beau, beau, gros flop. Puis c'est, en partie à cause du design. Donc, à mon sens, cette voiture-là fait partie des voitures les plus laides de l'histoire de l'automobile.
On va faire un bond géant dans l'avenir. Et on se rend...
Un vrai Marty McFly.
Voilà. Mais je n'ai pas de DeLorean. J'ai plutôt une Mitsubishi Imiev.
Un peu moins sexy qu'une DeLorean.
Ah, pas mal moins. Pas mal moins. Oh, sais-tu ce que ça veut dire, Imiev?
Je l'ai déjà su. Ben, le EV à la fin, c'est Electric Vehicle.
Oui, mais là, mais le reste, le non. MI devant.
Mitsubishi?
Oui.
OK.
Là, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin. Cela dit, bravo pour la déduction, là.
Merci.
Non, ça veut dire Mitsubishi Innovative Electric Vehicle.
Wow.
Donc, encore à ce jour, on cherche ce qu'il y a d'innovant dans ce véhicule. Cela dit, il faut mentionner que le véhicule a vu le jour en 2009, que les véhicules électriques étaient à leur balbutiement. Hein? C'était un peu...
La genèse!
C'était la genèse de ce type de véhicule-là. Des véhicules électriques contemporains, disons.
Mais comment t'assurer de ternir la réputation des véhicules électriques? On retourne il y a 10 ans,
oui.
Les gens commencent...
C'est pas plus beau, là.
Non. Puis les gens commencent à voir des véhicules électriques, comprendre que ça existe, que ça s'en vient. Puis là, tu leur montres cette patente-là.
Qui a l'air d'un œuf.
Comment tu penses qu'ils vont réagir? Il faut que tu leur montres... Ce que Tesla a réussi à faire, c'est tout le contraire. Faut que tu leur montres qu'un auto électrique, ça peut être cool, ça peut être sexy.
Ça peut être rapide, en plus.
Oui!
Ce qui n'était pas le cas de cette voiture-là non plus.
Non, puis il y avait une autonomie de quoi? Si c'était 100 km, t'avais le dedans dans le dos.
155 km à la fin.
À la fin.
Autonomie annoncée par le fabricant, là.
Qui était beaucoup moins que ça, fait que c'était... Ouais. Écoute,
est-ce que tu as eu la chance de la conduire?
Oui. Sur un circuit, le circuit Gilles Villeneuve, mais comme j'étais allé à un événement...
Rouler électrique,
exactement, il y a 5 ans déjà. Fait que les autos électriques, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ça évolue rapidement. Puis j'avais discuté avec le propriétaire du véhicule qui, lui était
très fier.
Il était très content. Il m'expliquait pourquoi ça répondait à ses besoins. Il faut dire qu'il avait des besoins assez spécifiques. Lui,
il jouait au golf. Donc, il avait besoin d'une voiturette
non,
de golf.
Il habitait pas loin de la job. C'était assez pour aller au travail puis revenir sans avoir à se brancher. Fait que c'était comme suffisant pour
simplicité
lui.
Volontaire.
Ouais, mais en même temps...
Ouais, c'est ça, parce que c'était presque 30 000 piastres. Hein?
On part à une Hyundai Accent, mettons.
Ouais. Une Hyundai Accent qui est beaucoup plus évoluée à tous les points de vue. Là.
Ça prenait des gens motivés à quitter l'électrique, mais ça prenait aussi des gens pour qui l'esthétique du véhicule avait peu ou pas d'importance, parce que franchement, c'était laid à chier.
Et ces gens-là se retrouvaient même... au service de police de la ville de Montréal.
Ils en ont eu?
Oui, monsieur.
Wow.
Donc, on espère que c'était pas deux grands mangeurs de beignets qui se retrouvaient là-dedans en même temps.
Parce que l'autonomie aurait été compromise.
Et parlant d'autonomie, j'espère qu'ils n'ont pas eu de chasse à l'homme à faire avec, avec cette voiture-là. J'ai eu la chance de l'apercevoir à quelques reprises dans le quartier Hunsick, quartier-ville.
Ah oui?
Donc, mais ce véhicule-là, c'était essentiellement pour aller faire là, de la promotion dans les écoles ou des fêtes foraines, des trucs du genre.
Ben, pourquoi pas? Pour un auto de police, si tu fais juste de la ville puis que ils feront jamais de poursuite avec
jamais,
ça.
Jamais, jamais.
Pourquoi pas?
Elle n'est plus vendue, au Canada.
On a tiré la ploie.
Oh! Deuxième fois. Électrique.
Deuxième fois de l'émission que j'utilise ce terme. Bravo quand même à Mitsubishi qui s'est un peu repris depuis. On commercialise maintenant une version hybride rechargeable.
Ouais, de l'Outlander.
De l'Outlander, exactement, qui a quand même une autonomie de quoi, une quarantaine de kilomètres
ouais.
En mode 100% électrique. Puis éventuellement, on va s'en venir avec un modèle électrique aussi, j'ose croire.
C'est un authentique 4x4, là.
Oui, tout à fait, ce qui n'était évidemment pas le cas de la Mitsubishi Imiev. Bon, ça montre vraiment comment les autos électriques ont commencé. Puis je pense vraiment que ce véhicule-là n'a pas aidé à construire une image positive des véhicules électriques. Je te ramène dans le passé, Germain Goyer.
Et sur le droit chemin, surtout.
Parce que je sais que tu aimes le passé.
Toujours.
Tu es un vieux monsieur.
Le passé, mais le passé simple.
Le passé simple. Quoi de plus simple qu'une Dodge Aries?
Ah!
Un K-Car.
Un vulgaire K-Car. Tu vas pas me dire que c'est laid?
Ben oui, c'était laid.
Non, j'impose un veto. On peut pas parler de ce véhicule-là dans un podcast sur les véhicules laids.
T'es sérieux?
Très.
C'était, en fait, c'était banal, mais d'une banalité.
En anglais, on dit boxy.
Morose, c'était triste. Ça voulait rien dire, ces autos-là. C'était des voitures jetables, des autos faites pour, on va t'en vendre, ça va rouler 120 000 km, tu vas l'envoyer à scrap, tu vas nous en acheter une autre.
Ben oui.
Je comprends que ça a sauvé Chrysler de la faillite. Je comprends que les gens en ont acheté, mais en tant que tripeux de char, tu peux pas aimer ces autos-là.
Ah, j'ai failli en acheter une.
Je sais que t'as failli deux en fois. Acheter une, c'est pour ça que je l'ai mis dans
la
le palmarès.
La même deux fois en
ouais,
plus.
Ouais, t'avais écrit là-dessus. Ouais. Parle-nous-en.
C'était une Plymouth Reliant K, familiale, blanche, intérieur caramel. Quelque chose de chic, là, vois-tu. Et elle avait 33 000 km à l'odomètre. Mais le problème, c'est que le vendeur qui tentait tant bien que mal de me vendre la voiture n'était en réalité pas le propriétaire de la voiture parce que sur les enregistrements du véhicule, c'était le nom d'une dame et cette dame, elle était morte.
C'est difficile de vendre un véhicule quand t'es six pieds sous terre.
Voilà. Alors, je lui ai dit, mets tes papiers à l'ordre, puis rappelle-moi. Et tout ça en lui montrant là, mes doux billets de 20$ que j'avais dans les poches. Et parce que
tu
auras deviné que c'était pas une voiture très, très dispendieuse.
J'imagine.
Mais c'était la familiale des années 80 qui me faisait rêver.
Ah, toi, c'était une familiale.
Oui, en plus.
C'est déjà moins pire.
Oui. Mais elle n'avait pas de bois sur les côtés.
Dommage.
Alors ça, c'était l'épisode 1 de cette voiture. L'épisode 2, je vois encore sur Kijiji, au moins un an plus tard, là, une Plymouth Reliant K à vendre, une familiale. Mais ce sont toutes des photos de voitures dépareillées qui sont dans l'annonce. Alors je m'empresse d'appeler. Le vendeur me dit qu'elle est en bon état. Il me parle d'une trentaine de milliers de kilomètres.
C'était pas le même gars que la première fois.
Non, c'était pas le même gars. On se donne rendez-vous le lendemain à son domicile et sur place, je m'exclame, mais c'est la même voiture!
La même.
J'étais avec un ami pour aller voir la voiture et je lui dis, regarde bien, il y a un autocollant du CA sur la valise en arrière, il y a deux taches de cigarettes sur le banc passager
et
il manque le cas de Reliant K sur la valise, mais il est dans le coffre à gants.
Oh my God!
Et quand on est arrivé, la première chose que mon ami a regardé, c'est la valise. Et il y avait effectivement le cas manquant, l'autocollant du CAA. Et voilà.
Puis tu l'as pas acheté la deuxième fois.
Je ne l'ai pas acheté.
Parce que cette voiture est hideuse.
Non, parce qu'elle est hantée, visiblement. Mais le vendeur voulait beaucoup trop d'argent pour cette voiture-là. Je lui avais fait une offre qui me paraissait raisonnable. Quelques jours après, il a renouvelé l'annonce à un prix inférieur à l'offre que je lui avais proposée.
Quel imbécile.
Alors, vraiment un génie des affaires.
Un fin négociateur.
Alors, je me suis dit, tu sais quoi? Il est aussi bien de crever avec.
Ouch! Comme la première madame.
Ah! Ça va, les blagues de mort?
Je suis malade, j'ai le droit. Bon, là, j'ai l'impression que tu vas me relancer. Je viens de parler d'une auto que t'aimes bien et que je trouve laide. Je pense que tu vas faire le contraire.
Ah, tu me connais si bien. Il m'arrive d'être baveux à mes heures. Pour moi, un des véhicules les plus laids de tous les temps, c'est la Pontiac Aztek.
Come on!
Non, c'est horrible sur toute la ligne. Aujourd'hui, je la regarde avec un œil puis je me dis, bon, c'est curieux quand même comme véhicule, mais c'est carrément coupé au couteau. Il y a beaucoup trop d'angles sur ce véhicule-là. Il y a du gros body cladding. Là, en français, c'est des panneaux de plastique dans le bas des portes.
C'est magnifique.
T'avais des jantes à trois rayons. C'est affreux.
C'était magnifique.
T'avais du jaune comme couleur. Ça faisait beaucoup trop de jaune. Avec ce véhicule-là, on visait les jeunes actifs. Donc, en plus, j'étais le public cible, tu sais.
T'avais comme 5 ans.
Et je suis pas jeune ni actif. Et ça avait été lancé en parallèle avec l'émission Survivor, qui était elle aussi lancée au même moment.
Ça, je savais pas.
Donc, on allait vraiment rechercher le côté aventurier. Parce qu'on se rappelle, on pouvait avoir une tente à l'arrière.
C'était tellement cool.
Non.
Moi, c'est ça qui m'a charmé. Dans la publicité, t'avais, bon, on ouvrait le hayon en arrière, puis il y avait une espèce de tente qui s'installait. Des collègues qui étaient déjà dans le milieu du journalisme automobile à cette époque-là m'ont expliqué que ça prenait comme une heure à installer la maudite tente. T'étais aussi bien de t'installer une tente à terre puis de faire comme tout le monde. Mais je trouvais ça tellement cool de transformer...
J'aurais vraiment aimé aller au lancement de ce véhicule.
Moi aussi, tellement. Je trouvais ça cool de transformer ton véhicule en objet de camping, finalement.
Puis j'ai comme à Westphalia.
Ouais, mais moins cool. La Westphalia est quand même imbattable et tellement magnifique. Mais la Pontiac Aztec...
Mais t'as pas de V6 3.4 litres
non.
Avec une transmission automatique à 4 vitesses.
4 vitesses. Moi, la Westphalia, c'est 3 vitesses.
Hey, c'est, hein? C'est le gros luxe, là, le gros confort.
Ils ont mal vieilli, là, je vais te le donner. On en voit très peu sur les routes maintenant.
Mais à l'époque, beaucoup de gens disaient que son cousin, le Buick Rendez-vous, était oui. beaucoup plus beau. Mais je l'admets, il a vieilli tout aussi mal.
Oui, oui, c'est vrai. Puis c'est vrai que le rendez-vous...
À l'époque, c'était plus...
Il avait l'air un peu plus classe, tandis oui. que l'Aztec, c'était plus et outdoorsy,
on se rappelle
Merel.
Qui... Oui. Gourde d'eau attachée à la taille.
Bas de laine un peu trop long.
Des shorts à l'année. Et non, chez Buick, on avait une toute autre stratégie avec ça. C'était... Ben, en fait, c'est Tiger Woods qui faisait la promotion de ce véhicule-là. Donc, on allait vraiment chercher la classe et le prestige.
C'est vrai.
Les gens qui avaient réussi dans la vie. Mais ça n'a pas pris longtemps avant que ça ait l'air vieux et que ça ait mal vieilli.
Réalisateur, évidemment, est sur Google en train de regarder des images du Buick Rendez-vous. C'était quand même... Ça avait de la gueule là, pour l'époque.
C'était particulier, mais c'est rapidement devenu tout des vidanges. Là.
Le nom était bizarre.
Rendez-vous. Mais les Anglo, ils aiment ça, les noms franco, ça sonne exotique.
C'est ça, ils se sentent fancy. Tandis que Aztec, faut que t'avoues que le nom était bien trouvé.
Ben oui.
Aztec.
Comme il y avait une référence culinaire, là, tu sais, un bon couteau Aztec.
Je me demandais tellement.
Mais il était coupé au couteau en plus. C'est ça qui est génial.
Tu démissionnes.
Bon, hey, quelle transition! Nissan Cube!
Nissan Cube!
Ah non, c'est à toi. Hein?
Ah, mais vas-y, j'ai le goût de finir avec la voiture
ah, oui,
la plus laide,
la plus
de, tous
laide de tous les temps. Nissan Cube. Ça, ce qui me gêne le plus, c'est l'asymétrie du véhicule.
Ah, mais moi, c'est ce qui me plaisait.
Ah, voyons!
Explique l'asymétrie, puis je vais t'expliquer pourquoi ça me plaisait.
OK. Pour le marché nord-américain, parce que c'était différent ailleurs dans le monde, comme au Japon, en Amérique du Nord... La vitre du côté passager à l'arrière se poursuivait jusque dans le hayon à l'arrière.
Ouais.
Grosso modo.
Mais pas de l'autre bord.
Mais pas de l'autre bord. Donc, il n'y avait pas de pilier C du côté passager.
Bien dit. Ben, en fait, il y en avait un, mais il était comme noirci.
C'est ça. Exactement. Alors que le reste de la carrosserie était de blanc, bleu ou peu importe.
Oui, exactement. Puis
mais moi, ça choque l'œil.
Oui. Moi, j'aurais aimé que ça se poursuive de l'autre côté aussi, tant qu'à le faire.
Ah oui, un aquarium, là.
Genre, pourquoi pas?
Ben, on a déjà fait la Pacer, puis c'était pas génial.
C'était ordinaire. Mais c'était un auto Nissan osait, à l'époque.
Oui, on peut pas dire que Nissan ose beaucoup ces dernières années.
On peut penser au Juke aussi.
Oui,
comment
il me plaisait beaucoup. Je trouvais qu'il avait l'air d'un petit crapaud.
Ouais,
tu sais, si on regarde son remplaçant, là, le Qashqai, tu peux pas avoir plus fade et sans saveur que ça.
Exact. Le Kicks aussi. En fait, c'est pas tant le remplaçant parce que le Juke existe encore en Europe. C'est juste
oui, mais on l'a plus ici.
On l'a plus, c'est ça.
On a offert un produit qui allait mieux se vendre, visiblement. Dans la série de ces petits véhicules-là, asiatique au look boxy. Il y a eu le Kia Soul aussi,
oui.
Qui lui est toujours vendu.
Ça, c'est une réussite.
Absolument.
C'est moins, c'est peut-être un peu moins funky que ce qu'était la Nissan Cube.
Ben voilà, on a su doser le côté funky, mais c'est pas le cas de Hirotada Kuwahara, qui est le designer.
Name dropping.
Ah ben oui, hein? Ça m'arrive des fois de faire un peu de recherche avant d'arriver à ce. Un petit 5 minutes. Ben en plus, même sur le plan de la motorisation, on avait un 4 cylindres. 1.8 litres, c'était les débuts des transmissions à variation continue, là, les fameuses CVT. Donc, il n'y avait rien de trop génial dans ce véhicule-là. Et c'est pour ça que moi, je le mets au vidange.
Je peux pas dire qu'il est beau, je peux pas dire que je l'aurais mis dans mes voitures les plus laides de tous les temps, mais je suis d'accord avec toi pour le Kia Soul, qui est franchement mieux réussi.
C'est pas un véhicule que j'apprécie, jamais j'en aurais un. On
le
est
Soul?
D'accord. Le Soul. Mais voilà, c'est plus passe-partout, tout en se distinguant quand même. Donc, c'est le juste milieu pour moi.
Moi, je peux pas me plaindre. Le Cube est arrivé aussi après la mode bon, du Sion XB qui a commencé aux États-Unis puis qui est venu au Canada par la suite. C'est cette espèce de petite mode de véhicule carré.
Avec le Honda Element aussi.
Oui, c'est vrai. Honda Element qui, à mon sens, est le plus réussi d'entre tous.
Ouais.
Je trouve que c'est un magnifique véhicule que j'aimerais beaucoup voir Honda
très pratique
ramener
en plus
à la vie. Oui, 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 totalement. Un jour, je vais peut-être en acheter un.
Je te le souhaite.
Ben, je pense que les deux, on s'entend sur le nom du modèle qui est le plus laid de tous les temps.
Oui, et l'univers en entier s'entend là-dessus. C'est comme un consensus.
C'est vrai, hein? La communauté automobile mondiale est comme... Okay,
sans frontières.
C'est celle-là, sans frontières. De Cuba à la Russie. Non, la Russie, il y a sûrement deux, trois affaires encore plus bizarres qu'on connaît même pas.
Mais oui, je te laisse présenter ce véhicule-là.
Oui, le véhicule, Germain, le plus laid de tous les temps. C'est un véhicule qui provient du même pays qui nous fournit d'excellentes pizzas. J'ai nommé l'Italie.
Le Pizza Getty. On a de plus grandes réussites.
Il s'appelle le Fiat Multipla.
Ah!
Multiplat
en plus,
comme Pizza Getty, par
ah
exemple.
Ah oui, parce qu'on a de multiples plats dans ton assiette.
Exactement. Le Fiat Multipla, c'est difficile de croire que cette voiture-là vient du même constructeur.
C'est horrible.
Qui nous a amené des véhicules quand même très beaux, comme la Fiat Dino ou la 124 Spider, par exemple. Le Multipla, on est ailleurs. Là. C'est comme si on avait écrasé un premier véhicule puis qu'on avait ajouté...
coquille d'autobus. Là.
Ouais, genre, on a comme... trois étages de lumière, puis le dernier étage, c'est là aussi qu'on retrouve le logo par-dessus le capot.
Ouais.
Donc, c'était...
À la jonction du capot et du pare-brise, là.
C'est vraiment... Je sais pas, les designers ont vraiment eu une idée, puis ils se sont dit comme...
Go!
T'es-tu game?
On le fait.
Ah ouais, je suis game, on le fait, on le fait. Puis, tu sais, c'est comme, mettons, t'es à un feu de camp, là, puis là, t'es sous... Puis là, ton ami dit, hey, on saute-tu par-dessus le feu, ça va être drôle. Puis là, t'es comme, oh, on le fait, go, on le fait. Puis là, Fiat.
J'ai jamais fait ça.
Fiat a fait ça, Germain. Fiat a fait ça. Puis ça a donné le multiple.
Puis ils sont brûlés solidement.
Ils se sont décrits les pieds. Puis, tu sais quoi, le pire, c'est qu'on en a quand même vendu pas mal en Italie. Mais le reste du monde a fait comme.
Non, merci.
What the fuck, l'Italie, qu'est-ce que vous faites? Puis, tu sais, la Fiat 500, c'est une belle petite auto. Je l'ai dit, la Fiat 124 Spider, c'est une marque Fiat qui est reconnue pour son design. Une chance qu'elle a ça, parce que c'est pas des autos franchement fiables. Mais là, on a rien. On a rien. C'était une voiture qui était. J'imagine que la visibilité était bonne.
Oui, parce que il y avait autant de vitres que dans un solarium de Paris, là.
Exact. Fait que si on veut y donner un point positif.
Ça a changé ma vie.
Quoi? C'est quoi ça?
Les publicités de solarium de Paris interviewaient des personnes âgées. Oh. Ça a changé ma vie.
Peut-être que ces personnes-là se promenaient en Fiat Multipla.
Ces personnes-là sont mortes aujourd'hui. Est-ce qu'on va manger du Pizza Getty?
Oui, puis on va terminer ce podcast-là très bientôt parce que j'ai vraiment envie d'aller me moucher.
Ah! C'est finir sur une bonne note. Hein?
C'est en regardant des véhicules comme ça, Germain, que je me dis, même enrhumé, je ne suis pas si laid que ça.
T'es toujours beau, Frédéric.
T'es fin.
T'es un peu frisé en plus.
Oui, faut que j'aille chez la coiffeuse. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation.
Merci à Philippe Séguin à la réalisation, au montage, à la musique, à la recherche Google et même aux pizzas.
Tabarouette, il en fait donc bien des affaires, ce gars-là. C'était une production
Cube Radio
et Philippe Séguin.
C'est sûrement.